Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes, je vous propose de découvrir un dispositif original dans le paysage médiatique français, plus précisément au sein d'un des groupes de l'audiovisuel public français, j'ai nommé Radio France. Un service de vérification des faits a été créé en 2016 au sein de la chaîne d'information en continu France Info. Les journalistes qui composent cette équipe atypique prennent le temps qu'il faut pour recouper les informations avant qu'elles ne soient données sur les antennes, même quand elles viennent de la très respectée agence France Presse. C'est de l'agence France Info dont on veut parler aujourd'hui, une agence qui, il y a peu, est devenue agence Radio France, preuve de l'importance donnée à ce dispositif pionnier dont la pérennité semble être devenue une évidence. Bonjour Estelle Cognac.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de France Info et directrice de l'agence Radio France. Le 1er juin, France Info a fêté ses 35 ans. Pour les auditeurs de RFI qui ne connaîtraient pas France Info, comment décririez-vous votre média ?
Ah, France Info, c'est la première chaîne d'info en continu française, puisque quand elle a été créée au sein de Radio France en 87, effectivement, il n'y avait pas d'autres médias d'information en temps réel dans le paysage. C'est bien après que les chaînes d'info en continu télé ont été créées, et puis il y a bien sûr le numérique, et puis le fait que tous les médias viennent dessus. Donc c'est une pionnière de l'info en continu, ça c'est important. Et ensuite, c'est une chaîne qui s'est développée, qui a commencé petite, parce que c'était vraiment un petit laboratoire, on va dire, au départ, et qui a grossi, 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 jusqu'à devenir aujourd'hui la troisième radio de France. C'est une chaîne qui a évolué. On est passé du robinet à information, comme on disait à un moment donné, où il y avait beaucoup de répétitions. On retrouvait... elle était dupliquée, on va dire, sur toute la journée. Et puis, on a changé l'image de cette chaîne, qui est devenue une chaîne avec des incarnations, avec des tranches, avec de l'information, certes en continu, certes choses, mais aussi du décryptage, mais aussi de l'explication. Donc c'est une chaîne qui s'est beaucoup transformée au cours des années, et aujourd'hui je pense que c'est ça, la proposition éditoriale de France Info, c'est à la fois le réflexe info, il se passe quelque chose, je me branche sur France Info, je vais avoir les infos, et puis cette explication, ce décryptage de l'information, avec bien sûr des règles strictes de vérification, certification d'information sur lesquelles on est depuis 6 ans.
France Info est souvent présentée comme le média global, puisque ce n'est plus seulement une radio, ce sont aussi des applications, sites internet, et également eh bien, un pendant télé que vous opérez avec France Télévisions.
Tout à fait, c'est un choix qui a été fait il y a maintenant, ça fera 6 ans en septembre, où on a la chaîne de télévision du canal 27 effectivement a été créée en collaboration. On a beaucoup travaillé sur l'aspect numérique, ça c'est très très important puisqu'il y avait un site France Info Radio et il y avait une plateforme du côté de France Télé. C'est une très grande réussite puisqu'aujourd'hui on est dans des premières plateformes. On est, alors selon les mois, premier, deuxième média d'actualité, on a aujourd'hui un site internet qui a fait, je dirais, 1 plus 1 égale 3 ou 4. On a pu être complémentaires, travailler ensemble. On a une très, très grande collaboration avec des groupes WhatsApp toute la journée où vraiment il y a des échanges permanents des deux côtés de la scène. Donc vraiment le numérique c'est une très grande réussite. Je pense que voilà, en additionnant des forces, on a pu se déployer beaucoup plus sur plus de médias, plus de réseaux sociaux. Sur la chaîne de télé, on a des collaborations à certains moments. Alors l'agence France Info, Radio France aujourd'hui fait le bandeau de la chaîne de télé, le ticker déroulant, ça c'est un point important. Donc ça c'est déjà quelque chose que nous faisons pour cette chaîne. Et ensuite on a des moments d'antenne, c'est-à-dire qu'on a des émissions, le 8h30, les informer, des interviews comme l'invité écho ou des chroniques qui sont diffusées sur cette chaîne du canal 27. Voilà.
Alors revenons sur les débuts de cette fameuse agence France Info. On est en 2015, il y a des emballements médiatiques liés à l'attentat de Charlie Hebdo qui avait engendré eh bien beaucoup de flou, en tout cas beaucoup d'informations face à laquelle les journalistes étaient parfois bien embêtés. Il y a eu également un gros couac de la part de l'agence France Presse qui avait annoncé la mort de Martin Bouygues. C'était une erreur. Et à ce moment-là, le directeur de France Info de l'époque, Laurent Guimier, vous confie une mission, celle de réfléchir à la circulation de l'information au sein de la radio.
Tout à fait, vous êtes très bien informé. En fait, c'est pas duplicable à des chaînes de programmes ou autres, mais disons dans une chaîne d'infos en continu, quand on a des présentateurs, des gens sur le terrain qui se succèdent en permanence, on avait constaté qu'on avait des incohérences. C'est normal puisque tous nos présentateurs se basaient sur un article qu'ils avaient vu sur le Figaro, sur une dépêche de l'AFP, sur quelque chose qui venait de chez nous, et on pouvait avoir des contradictions à 10 minutes d'écart, un quart d'heure d'écart, également avec ce qui était mis sur nos réseaux sociaux, sur notre site. Donc on avait besoin absolument de centraliser ce que France Info pouvait dire sur des informations. Ça, c'était primordial. En plus, on avait des journalistes sur le terrain qui avaient des scoops, des infos, et ils ne savaient pas à qui s'adresser. C'est-à-dire qu'ils venaient là où il y a les présentateurs, mais certains n'étaient pas là, étaient à l'antenne, étaient partis boire un café, donc ils n'entendaient pas les choses. Ils allaient voir quel rédacteur en chef, puisqu'il y en a qui succèdent toute la journée. Donc en fait, il y avait une très grande déperdition des informations. Donc il fallait absolument ramener tout ça quelque part pour qu'ensuite, ça reparte pour tous. Donc la solution était de se dire, là, quand j'ai vraiment travaillé sur cette circulation, c'est de dire, il faut un endroit où tout peut arriver. Donc on a décidé de créer une agence sur le modèle un peu de l'agence France Presse dont vous parliez, avec un fil de dépêche estampillé, qui d'ailleurs s'insère dans le fil d'agence et qui peut être vu, regardé aussi à part, et qui donc fait des dépêches à partir de toutes ces infos exclusives de France Info et aujourd'hui aussi du groupe Radio France ou de France Télévisions. Et puis aussi, là c'est l'autre point en plus de la centralisation, c'est la certification. C'est de se dire effectivement, il faut qu'on revienne au fait de vérifier nous-mêmes toutes les informations. Moi, je ne jette pas la pierre aux autres et aux confrères, mais c'est vrai qu'avec le développement du numérique, il y a eu le développement de ce qu'on appelle la curation et le fait d'aller faire des articles à partir des informations des autres. On va reprendre Le Parisien, Le Figaro, RTL, ce qu'on veut, et reprendre ces informations-là. Moi, je ne mets pas en doute la manière dont ils travaillent et le fait qu'ils travaillent sérieusement et comme on doit le faire. Mais il vaut mieux, et on l'applique aussi d'ailleurs aux agences de presse, il vaut mieux quand même revérifier nous-mêmes les informations. Et c'est ça qui a été le plus important pour nous dans une chaîne d'infos en continu, où c'est un flot, où ça arrive toute la journée les infos. On s'est dit, et avec les événements que vous avez cités, les attentats, l'affaire Martin Bouygues, on s'est dit, revérifions nous-mêmes tout ce qu'on veut donner. Et on a fait une charte très stricte.
C'est ce que j'allais dire. Vous êtes parti d'un postulat et d'une charte avec cette idée de dire on ne reprend plus sans vérification préalable les informations venues des agences de presse et des médias externes.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Une charte écrite et que les journalistes de votre agence ont affiché.
Une charte qui est partagée, qui se trouve sur le site de France Info. Tout en bas, il y a un onglet charte déontologique et cette partie-là, alors ça traite d'autres choses, mais aussi de la partie de vérification des informations. Elle est explicite, donc on a décidé de la mettre en place et elle est très très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne reprenons les informations en provenance d'ailleurs que quand la source elle est identifiée et pertinente sur le sujet. Si elle n'est pas identifiée, c'est-à-dire que vous avez les formulations journalistiques, source proche du dossier, source proche de l'enquête, source policière, on revérifie ces informations. Par contre, si c'est la première ministre Elisabeth Borne qui donne une interview dans le Figaro, bien évidemment, on peut reprendre ce qu'elle dit. Donc il y a vraiment, et ça vaut donc pour tous nos confrères, y compris pour les agences de presse. On a aujourd'hui une seule exception, c'est les médias de l'audiovisuel public, France Info, donc bien sûr Média Global, télé, radio, numérique, mais aussi les médias de Radio France et médias de France Télévisions et de France 24 et RFI. En fait, l'audiovisuel public, puisqu'on part du principe que voilà, on a partagé des règles ensemble et qu'on on se connaît. Donc ça, c'est très très important. Bien sûr que c'est pas évident, parce que pour nos présentateurs au départ, ça a été un petit peu compliqué pour une chaîne d'infos en continu de se dire, attention, on perd du temps, un peu.
Oui, c'est-à-dire on peut arriver deuxième, troisième, en sous-entendu, ne pas être les premiers à donner l'info. Ça, c'est compliqué pour un journaliste.
C'est compliqué, parce qu'en plus, on est le réflexe info. Donc, il se passe quelque chose, quelqu'un arrive pour écouter ce qu'on a raconté, et nous, on attend un peu. Ah oui, c'est pas évident, c'est sûr qu'on s'est dit, bah oui, on va perdre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Alors, L'avantage, c'est qu'on a quand même une capacité journalistique de vérification qui est très importante au sein de France Info, au sein de Radio France. On a tout le réseau France Bleu en local, donc on se tourne...
On va en parler tout à l'heure.
Voilà, quand on a, nous, une vérification à faire, on se tourne, soit l'agence vérifie elle-même, soit elle vérifie, elle appelle un service de France Info, elle appelle une France Bleu, on se coordonne avec France Télé pour voir si du côté de France 3, France 2, ils ont les infos. Enfin, la capacité, la force de phrase journalistique de vérification est très importante, sinon c'est sûr que ça ne tiendrait pas.
J'ai trouvé une formule que vous avez donnée au journal Libération en novembre 2017. Assumer ses erreurs, d'accord. Assumer celles des autres, non.
Assumer ses erreurs parce que de toute façon, on en fera. Et depuis cette interview que j'avais pu donner, on a eu l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, on a eu plus récemment dans les médias aussi le décès d'Yvan Colonna qui finalement... il n'était pas décédé sur le moment, donc en prison. C'est pas possible d'être infaillible. Parce que de toute façon, on a des sources qui parfois peuvent se tromper, hein, de bonne foi. Parce que même si on les recoupe, l'affaire Dupont de Ligonnès, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait recoupé avec plusieurs sources. Nous, on ne l'a pas donné quand les autres médias l'ont donné. Nous ne l'avons donné que quand nous-mêmes, nous avons considéré qu'on avait assez de sources. Sauf que le problème, c'est que plusieurs sources qui nous donnaient l'information tenaient, elles, cette information d'une source unique. Et c'est elles qui se trompaient. Donc, ça ne peut pas être infaillible. Et ça, moi, on peut encore se tromper et on l'admettra et on le dira.
Estelle Cognac, quand vous avez créé l'agence France Info, j'imagine que vous vous êtes posé la question de savoir quel profil aller chercher pour composer cette petite équipe, vraiment en mode projet. Et ça a été quoi votre marotte? De se dire, il faut qu'on soit bon sur les thèmes de police-justice, qui, on le sait, sont importants à France Info, sur les thèmes de la politique, de l'économie. Quelle tête êtes-vous allé chercher?
Alors au départ, on n'a pas thématisé, on a plutôt des profils de présentateurs. C'est-à-dire que les, entre guillemets, clients de l'agence aujourd'hui, ce sont principalement les présentateurs de France Info et des autres chaînes de Radio France. Donc, c'était intéressant d'avoir des journalistes qui comprenaient les besoins et la manière de travailler. Donc, c'est vrai qu'on a eu, on a recruté beaucoup de jeunes journalistes qui avaient ces profils-là. Et puis après, on a récupérer des journalistes du numérique qui, eux, étaient à l'aise aussi avec l'écrit, avec les dépêches d'agence, avec...
La veille sur les réseaux sociaux aussi,
avec la
aussi,
veille,
j'imagine.
Notamment, puisqu'on a une grosse, grosse partie de veille, on a développé beaucoup d'outils. Donc, c'est vrai que, je dirais, l'association de journalistes formés au numérique et de présentateurs a permis, je pense, de trouver la meilleure adéquation. Ensuite, vous avez raison, vous parlez de l'APJ, de la politique. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a identifié très rapidement la nécessité d'avoir un journaliste au sein du service police-justice de France Info. On a vu que c'était effectivement là où se trouvait la plus grande partie de la vérification. Donc on a mis en place un poste tous les jours de 9h à 18h et on a formé les journalistes qui y vont. Ce ne sont pas l'intégralité des agenciers. Il faut avoir l'envie de manier cette matière aussi. Donc, et on les a formés. On a à Radio France 3 formations autour de cette thématique-là. L'enquête, l'instruction, le procès et les affaires de terrorisme. Donc, c'est des journalistes voilà, qui ont... on a un mémo, qui ont fait un mémo aussi sur les termes juridiques, etc. Donc, voilà, c'est pas n'importe quel journaliste qui y va.
Donc, qui y va, qui concrètement, physiquement est au sein du service politique.
Tout à fait. Et qui fait l'interface entre l'agence et le service. Et l'année dernière, au moment des élections régionales, on a fait la même chose au service politique. Donc depuis un an, il y a un agencier qui est au sein du service politique de France Info, pareil pour faciliter les liens et la remontée d'informations. Parce que les journalistes, parfois, il y a ce qui passe à l'antenne et puis parfois ça ne passe pas parce qu'on ne peut pas, il y a trop d'infos, etc. Ils n'ont pas toujours conscience qu'ils ont des informations qui méritent quand même d'être données, mais traitées en dépêche, qui peuvent peut-être aller à un moment à l'antenne. Donc ça permet de mieux collecter aussi. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on a menée sur un an. On va faire un bilan là, à la fin de la saison après les législatives pour voir si c'est pertinent de maintenir un agencier au sein de ce service. Et là, de la même manière, c'est des journalistes qui avaient une appétence spécifique pour la matière politique qu'on a mis.
Les derniers chiffres que j'ai trouvés me disent que vous publiez environ 20 000 dépêches par an. Elles parlent de quoi en général, ces dépêches ?
Alors oui, c'est ce qu'on fait. Je dirais on fait entre 60 et 70 dépêches par jour. Ça peut être beaucoup plus s'il y a un événement d'actualité important. On peut monter à 120, 130, 140. Malheureusement, par exemple, de l'actualité plus difficile, quand il y a eu les attentats, où là, effectivement, on a beaucoup de production de dépêches parce qu'elles peuvent être très, très courtes. Donc, on a à la fois des dépêches de vérification, certification de l'information sur ce qu'on aura vérifié. On a des dépêches avec des scoops, des infos exclusives de France Info ou des autres médias de Radio France, France Bleu, France Inter. On a l'écoute des invités de nos antennes parce que l'objectif de l'agence, c'était aussi de valoriser ce qui passait à l'antenne. On avait des invités qui donnaient des informations et on n'était pas en capacité de les recycler, de les identifier, détecter et de les donner à d'autres moments, dans des titres ou plus tard. Donc tous les invités de France Info sont écoutés. Certains donnent lieu à des dépêches pour qu'ils soient donnés à l'antenne ou pour qu'ils soient édités sur le numérique. On le fait aussi à la carte avec France Inter et France Bleu. Et c'est ce qui va se développer dans le cadre de l'agence Radio France. Une meilleure détection écoute des invités des autres chaînes de Radio France. Et puis après, on a l'agence est abonnée à tout un tas de communiqués institutionnels, toutes les préfectures, les pompiers, les ministères, etc. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que l'agence France Presse n'était pas forcément dans la temporalité d'une chaîne d'infos en continu. Donc il y a des informations qui arrivent et nous, on a besoin de les traiter plus rapidement que la dépêche de l'agence France Presse. Donc on est abonné à tout ça. On va recevoir par exemple une préfecture qui va dire qu'en raison d'inondations, il y a quelque chose qui est fermé, les écoles vont fermer ou des choses comme ça. Donc notre veille plus la réception de tous ces communiqués permet de donner des infos plus rapidement. Donc ça c'est en gros, je dirais, les trois sources de dépêches.
Vous le disiez, vous êtes un fournisseur d'infos pour des clients qui sont les présentateurs des antennes de Radio France, donc France Info, les antennes de France Bleu, France Inter, mais vous l'avez dit, on peut peut-être le répéter, vous n'avez pas l'ambition de devenir un AFP bis, ni peut-être de vendre vos dépêches en externe à d'autres médias ?
Alors aujourd'hui, le fil de l'agence France Info qui se transforme en Radio France, il n'est pas public. C'est un fil qui est à destination interne, comme on dit si on reprend des termes commerciaux, en B2B, et pas B2C. Donc il a vocation à servir les antennes, à les valoriser. Et il n'est pas question aujourd'hui d'aller concurrencer l'agence France Presse, parce que de toute façon, on n'a pas une capacité, une force de frappe identique, et on reste dans le prisme éditorial de France Info aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'était l'agence France Info, donc elle traitait des infos que France Info veut donner et qui sont dans sa ligne éditoriale. Aujourd'hui, en étendant à Radio France, on ouvre un peu cette ligne à ce que sont les autres antennes de Radio France. Donc ça va être un petit peu plus large. Maintenant, on est sur du franco-français. On n'est pas sur de l'international parce qu'on n'a pas la capacité de vérification aujourd'hui sur l'international comme on l'a sur la France.
Alors et l'agence Radio France, on peut le préciser, aujourd'hui, ce sont 23 journalistes. Donc évidemment, on ne peut pas concurrencer.
Voilà. Aujourd'hui, c'est un regroupement entre France Info et France Bleu en termes de force, puisqu'on a beaucoup de choses autour du local. Donc, mais on n'a pas la capacité à faire cette vérification à l'extérieur de la France. Donc déjà, il y a cette problématique. Et aujourd'hui, il n'est pas question de s'inscrire dans une concurrence frontale et le vendre encore moins. Après, que ce fil un jour soit accessible quelque part peut-être le site internet de Radio France, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Est-ce qu'elle doit apparaître ? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a peu fait la publicité de l'agence France Info, agence Radio France, en fait. C'est une stratégie interne.
Mais on pourrait envisager un jour, effectivement, que le fil info de l'application France Info, Radio France, par exemple, donne les dépêches du service public.
C'est une piste, ça pourrait, si ce choix pourrait être fait.
Parlons un petit peu justement du réseau et du maillage territorial. On en a beaucoup parlé depuis le début de cet entretien, de la remontée d'infos de terrain, puisqu'il y a de plus en plus de synergies. Et puis on comprend bien que l'ambition derrière ce renommage d'agence France Info en agence Radio France, c'est cela. Parlez-moi de l'ancrage local et justement de comment l'agence interagit avec les antennes régionales ou locales de France Bleu.
Alors, depuis le départ, de toute façon, il y a des liens très forts entre France Info et France Bleu, parce qu'il y a beaucoup de sujets de France Bleu qui se retrouvent sur l'antenne de France Info, et il y a une complémentarité entre une chaîne qui traite beaucoup d'infos nationales et un réseau qui traite de l'info locale. Donc déjà, on partait sur des relations qui sont fortes, et c'est vrai que depuis le départ, on a beaucoup travaillé avec France Bleu pour développer un maximum la création de dépêches. Alors, aujourd'hui, ça a un petit peu baissé si on donne des chiffres. Avant le Covid, on avait quand même 20 ou 25% de dépêches qui étaient faites à partir de France Bleu, ce qui est quand même important. C'est normal, avec le Covid, il y a eu moins d'infos locales, les choses se sont un peu arrêtées, donc on avait diminué plutôt autour de 15% et on est en train de remonter. Donc quand même, c'est une part importante de la production de dépêches. On a des outils. Alors l'agence, en fait, on a un mail. Moi, j'avais créé une sorte de petite carte où on a un numéro de portable, un numéro fixe, des mails. Et on communique avec les 44 locales selon leurs préférences. Et elles nous envoient des informations. Ce matin, par exemple, il y a un incendie dans un entrepôt. Et bien, la locale en Bretagne nous a envoyé un mail avec tout un petit speech en disant, ben voilà, il s'est passé ça, ça et ça. Nous, on fait une dépêche. Certains nous envoient des URL de leur article web une fois qu'ils sont publiés. Donc, ils nous signalent les informations. Il y a une remontée d'informations de leur part pour qu'on fasse des dépêches. Et puis après, il y a des appels quotidiens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses que fait France Info qui les intéressent. Nous, l'agence, elle est là pour redescendre aussi vers les locales des choses que pourrait avoir France Info et qui les concerneraient. Et puis, on travaille main dans la main sur certaines informations où eux, on avait le cas avec la locale de Rennes cette semaine, où eux avaient des sources locales, notre service police-justice des sources nationales. Et donc, on croise, voilà, on les appelle, eux ont ça, nous on a ça, on croise les infos pour pouvoir produire quelque chose le plus exact et le plus vaste possible. Donc, on a vraiment un travail quotidien, et l'arrivée physique début avril de journalistes du numérique de France Bleu au sein de l'agence Radio France fait que là, on a un travail beaucoup plus fin, parce qu'ils sont juste à côté physiquement, et on a des échanges permanents sur « vous avez vu ça, il se passe ça », voilà, d'échanges vraiment très très forts.
Quand je marche comme Ben Masley, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Et quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors les jambes c'est le moteur, j'arrive pas à étudier le code. Je vais le perdre le jour où je l'aurai à cause d'un test de drogue.
C'est vrai, en plus, c'est sûr.
Ouais. Toujours à la recherche des vieux morceaux de l'or du commun. Sur les plateformes, évidemment. La balade m'amène au pied de la base de l'atomium. Quand je marche comme Ben Masley, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Et quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors
RFI. Vous écoutez l'Atelier des médias, je suis avec Estelle Cognac, directrice adjointe de France Info et directrice de l'agence Radio France.
L'Atelier des médias.
On parle beaucoup de synergie actuellement au sein de l'audiovisuel public français. France Info, on l'a dit, est opérée à la fois par Radio France et France Télévisions. Et il y a au niveau local, en France, des synergies entre France Télévisions et Radio France, notamment la plateforme ICI, construite avec France Bleu et France 3. C'est pour l'instant une application qui va aussi être un site internet. Quel impact ou qu'est-ce que cela change pour vous, agence Radio France? Allez-vous jouer un rôle dans tout ça, derrière tout cela? En tout cas.
Alors nous, on s'inscrit ce qui se passe pour cette plateforme, c'est qu'ils vivent ce que France Info a vécu il y a 6 ans en créant le média global. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est deux sur un site, on doit absolument s'harmoniser et se coordonner. Donc là, nous, on est là pour partager notre expérience avec France Bleu et France 3 en disant ben regardez, voilà, nous, il y a 6 ans, comment on s'en est sorti, quels outils on a mis en place, comment on a pu travailler ensemble, un groupe WhatsApp, une organisation. Parce que quand on a des infos sur une même plateforme en provenance de 2 entités, forcément, il faut s'harmoniser. C'est une obligation. On ne peut pas avoir des choses contradictoires en provenance des 2. Nous, c'est ce qu'on avait vécu. Alors, on avait, nous, finalement, anticipé côté France Info, puisqu'en créant l'agence, on avait réglé ce problème. On avait un point de sortie unique de notre côté. France Télévisions a fait la même chose avec son équipe numérique, donc on parle d'équipe à équipe. France Bleu, France 3, ils ont la même chose. Ils sont en train de développer de leur côté des interfaces entre 2 équipes, mais il faut qu'ils... Voilà, nous, on leur dit, voilà, comment ça s'est passé, quels écueils on a eu, on leur fait bénéficier de notre expérience. Ensuite, pour moi, à partir du moment où on est 2 à collaborer sur un site internet, forcément, on doit s'harmoniser. C'est-à-dire que là, on peut pas. C'est compliqué d'avoir des infos contradictoires. Donc, il faut venir sur des chartes qui sont les nôtres, de se dire voilà quelles infos on donne, de quelle manière, en qui on a confiance, quelles sources, etc. Il faut forcément s'assurer qu'on travaille de la même manière et s'harmoniser et venir sur une charte. Je pense, nous, la charte, elle était existante pour France Info Radio, les entités de France Télévisions, quand nous avons fait le Média Global, ont adopté la charte que France Info avait fait côté radio. On l'a retravaillée, on en a rediscuté et on a adopté une charte commune. Je pense que ce serait logique que du côté de France Bleu et de France 3, ils fassent la même chose.
Alors l'agence Radio France continue donc de se développer. Radio France, je ne l'ai pas dit, ce sont plus de 900 journalistes, si l'on en croit le dernier rapport d'activité disponible sur le site de Radio France, qui en fait l'une des plus grandes rédactions françaises. Quelles sont les pistes de développement pour l'agence Radio France dans les mois et les années à venir ?
Alors aujourd'hui, la piste de développement, c'est d'aller accentuer la relation et le travail avec les entités de Radio France avec lesquelles il y avait une collaboration qui était plus légère, on va dire, puisque l'agence de France Info, elle était tournée vers France Info et vers l'actualité de France Info. Elle avait déjà des liens, bien évidemment, avec France Bleu. Donc là, le travail continue, mais on va dire qu'il a déjà été largement amorcé au cours de ces années, mais avec d'autres entités comme France Inter, notamment, France Culture, et puis des directions transverses. On a des directions sur le sport, l'investigation et l'international. Là, on a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'on était plutôt dans l'agence prenait ce qui était publié ou ce qui était fait ou écouté. Et là, maintenant, il faut vraiment qu'on transforme la relation avec une remontée des infos, des scoops, des invités de manière plus importante. L'idée, c'est de valoriser, pour moi, ma conception de l'agence Radio France, c'est valoriser tout le travail éditorial des entités de Radio France et de ses chaînes. C'est-à-dire montrer combien on a une diversité éditoriale, une profondeur de traitement de l'actualité et donc accroître le nombre de dépêches qui est fait à partir de France Inter, France Culture et de ses rédactions transverses. L'idée, c'est vraiment de faire un fil plus dense, plus diversifié, plus important, augmenter le nombre de dépêches, aller détecter dans ces chaînes-là des pépites aussi, des choses, des invités qu'on n'écoute peut-être pas, que la chaîne elle-même parfois peut ne pas détecter. Et puis dans les services, on a souvent, comme c'était le cas à France Info, peut-être des informations qu'on ne remonte pas, qu'on ne traite pas. Essayer de faire en sorte que cette remontée d'informations soit plus forte, plus importante, plus large, quoi.
C'est ça aussi la mission de service public de l'information. Oui. Merci Estelle Cognac.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de France Info et directrice de l'agence Radio France. Merci d'être venue sur RFI dans l'atelier des médias. C'est bientôt la fin de cette émission, le moment de Mondoblog Audio qui vous fait entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. L'Afrique est le continent au taux de fécondité le plus élevé, mais en même temps celui qui est le plus touché par l'infertilité. Et quand il n'y a pas de grossesse après un mariage, cela jase dans les familles. C'est souvent l'épouse qui est tenue pour responsable. C'est ce que nous raconte la mondoblogueuse béninoise Sarah Demansik-Bédan.
En Afrique, avoir un enfant est l'un des premiers souhaits des familles. Lorsqu'une femme rejoint son mari, les familles leur souhaitent une bonne progéniture. La naissance d'un enfant dans une famille africaine est toujours saluée avec joie et reconnaissance envers Dieu et la divinité. Le vœu de chaque femme est d'être mère, et surtout la mère du garçon de son mari. Mais la maternité ne s'invite pas toujours dans les couples. Les femmes mariées sont nombreuses à ne pas réussir à concevoir. Et ceci, sous le regard méfiant et méprisant de leur belle famille. Avec cette pression sociale, beaucoup de femmes souffrent en silence et dépriment. La tradition rejette souvent le tort sur la femme. Cette dernière est tenue responsable de la stérilité du couple par son mari, sa belle-famille et son entourage. Leur foyer est vu comme un véritable nid de malédiction. La recherche imminente de remèdes contre le mal qui ronge la femme commence alors. Bonjour les consultations chez les tradis praticiens, les guérisseurs traditionnels, les marabouts avec leurs potions magiques ou encore ceux qui clament leur aptitude pour conjurer le mauvais sort sans succès. La belle famille devient ensuite le pire cauchemar de sa bru, avec des insultes à longueur de journée, en vue de séparer le couple et pouvoir remarier leur fils à une autre femme. Parfois, ce dernier arrive à contester la décision de ses parents. Malheureusement, on constate que l'homme finit par obtempérer parce que l'une des valeurs prônées en Afrique est le respect absolu de la famille génitrice. Le plus souvent, c'est après le second mariage, toujours sans enfant, que la famille de l'homme se rend compte que le problème vient de leur fils et non de l'épouse qu'il a quittée. Les us, coutumes et religions ont contribué à façonner l'image de la femme dans la société. Il ne faut pas oublier que la femme est un être humain, une personne à part entière, ayant des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Ces préjugés sur la femme la dénaturent et contribuent à la non-application du principe de l'égalité homme-femme. Être femme, c'est avoir la capacité de procréer. Mais être femme, c'est aussi vivre librement sa vie, sans avoir à supporter les préjugés liés à son sexe. On est femme avant d'être mère. En dehors de toute autre considération culturelle, ethnique et religieuse, femme tu es et femme tu resteras.
Mondoblog.org.
C'était Sarah Demancic-Bédan, journaliste et blogueuse béninoise. Des dizaines de Mondoblog audio comme celui-ci sont disponibles à l'écoute sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon Decreuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi, avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou encore l'appli Radio France. Mettez-nous des étoiles sur toutes les plateformes où vous le pouvez et laissez un commentaire pour donner envie au plus grand nombre de rejoindre notre communauté d'auditeurs. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.